que je suis extrêmement heureux de ces deux journées qui s'annoncent, que je trouve que c'est vraiment une occasion très riche d'approfondir ces questions d'analogie dans le champ de l'éducation. Et j'attends personnellement beaucoup de ces journées. Je pense qu'il y a vraiment une belle matière et des belles occasions d'échange et de construction. Alors, je vais donc lancer un petit peu le débat, les questions. Donc, ma conférence s'intitule L'impératif analogique, perspective pour l'éducation. Et elle va être organisée de la manière suivante. Il y aura quatre temps. Pendant un premier temps, je parlerai de l'analogie sur un plan, je dirais, très large, hein, c'est-à-dire que comme processus transversal, en essayant justement de montrer l'unité de ce phénomène sur un plan qui, à la fois, va être, me semble-t-il, très pertinent pour l'éducation, mais qui peut aussi se comprendre de façon encore plus large. Ensuite, je proposerai un cadre qui me semble avoir un certain intérêt, que j'ai appelé le cadre AS3, pour distinguer en fait trois formes d'analogie qui ont directement une pertinence dans une perspective éducative. Et le fait de distinguer ces trois formes d'analogie a des conséquences dans une perspective d'intervention scolaire. Et là, je présenterai un certain nombre de travaux assez précis, de façon à montrer le caractère, on va dire, opérationnel de cette façon de voir. Et puis, une conclusion assez brève, parce que l'idée, c'est plus de rebondir que de commencer en concluant. Alors, pour planter le décor, bon, on peut introduire la question de l'analogie de plein de manières. Voici celle que j'ai choisie ce matin. C'est une référence au scandale récent des Panama Papers. Donc, dans l'actualité à peu près immédiate, il y a une interview du cofondateur du cabinet d'avocats qui rédigeait ses statuts et qui dit une usine de voiture est-elle responsable du comportement des conducteurs? D'accord? Donc, vous voyez, c'est une manière, bien entendu, de dédouaner le cabinet d'avocats d'une certaine responsabilité morale. Et la façon de le faire, c'est par un recours à une analogie, c'est-à-dire qu'il y a une transposition ici qui est faite, qui n'apporterait pas grand-chose de disséquer, hein, tout le monde la comprend bien, mais en tout cas, c'est le fabricant de voitures qui se retrouve avec le rôle du cabinet d'avocat, et qui n'a donc pas la responsabilité du mauvais usage qui est fait de ses services. Et puis, un autre cas, assez récent aussi, cette fois c'était lorsqu'il y a eu des attentats terroristes aux États-Unis il y a quelques mois, à San Bernardino, et la question s'est posée de récupérer les données qui étaient cryptées dans le téléphone portable, et le FBI a fait une demande officielle à Apple. Et Apple a refusé, a essayé de ne pas répondre à la demande du tribunal. Et l'argument de Tim Cook a été, là encore, une analogie, disant: le FBI nous demande d'écrire un logiciel qui est, selon nous, l'équivalent du cancer. D'accord? Donc, vous voyez, c'est là encore une analogie très, très forte, hein. Ces deux exemples introductifs ont quelque chose de commun, il y a une certaine analogie aussi entre eux, c'est que vous remarquez que dans l'un comme dans l'autre, il s'agit d'aller à l'encontre d'une certaine opinion qu'on se fait spontanément par une analogie très forte. D'accord, qui vient d'un autre domaine et qui est censé, par, on va dire, réverbération, donner une nouvelle perspective sur la situation, qui n'est pas celle qu'on avait à l'origine. Alors, l'analogie n'a pas toujours bonne presse et... On va essayer de voir déjà pourquoi elle n'a pas bonne presse et puis de comprendre les raisons pour lesquelles il est quand même très intéressant de se pencher sur elle. Alors, donc, dans une tradition qu'on peut nommer logiciste et objectiviste, il y a une certaine raison de ne pas se fier à l'analogie, de la critiquer, de lui voir un certain nombre de limites et de défauts. Alors, il y a une raison toute simple, hein, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux différentes formes de raisonnement, eh bien, de façon assez incontestée, hein, l'analogie n'est pas une forme de raisonnement déductive. Et donc, il s'ensuit nécessairement que les conclusions des analogies n'ont pas de validité logique. D'accord ? Et de ce fait... si on prend un point de vue purement logiciste, eh bien, les analogies n'ont pas d'intérêt car elles fourvoient. D'accord ? C'est-à-dire que la conclusion à laquelle va mener l'analogie n'a pas de valeur logique et donc l'analogie est trompeuse. Et de ce fait, on pourrait soutenir que, effectivement, on peut faire des comparaisons, comme l'ont fait le cabinet d'avocats ou Tim Cook, mais ce que ces comparaisons ont simplement une valeur illustrative. Et comme, par ailleurs, on remarque qu'elles ont une certaine force de conviction, hein, il y a aussi la question de la rhétorique, du rôle des métaphores et des analogies dans une perspective rhétorique, eh bien, non seulement il n'y a pas de validité logique, mais en plus, elles fourvoient du fait de ce pouvoir de conviction non fondé logiquement. Un exemple parmi de très très nombreux qu'on aurait pu prendre, eh bien, vous savez que la guerre du Vietnam a été beaucoup défendue avec l'analogie des dominos, c'est-à-dire que les États-Unis disaient que si jamais le Vietnam n'était pas empêché de devenir communiste, eh bien, c'est toute la région qui, comme une série de dominos, tomberait dans le camp communiste. Cette perspective objectiviste et logiciste se retrouve à une longue histoire dans l'histoire des idées, en particulier en philosophie. Alors, dans le Phèdre de Platon, on va trouver cette situation qu'on appelle aussi la métaphore du mauvais boucher, dans lequel on va lire que l'idée, c'est comment est-ce qu'on appréhende le monde, comment est-ce qu'on peut appréhender de manière clairvoyante le monde. Et il est indiqué qu'il y a deux procédés. Donc l'un est de prendre une vue d'ensemble de ce qui est disséminé en une foule d'endroits et de le mener à une essence unique. C'est donc l'idée d'avoir une vue globale. Et puis un autre procédé, c'est au rebours d'être capable de fendre l'essence unique selon les espèces, en suivant les articulations naturelles et en tâchant de ne rompre aucune partie comme ferait un mauvais boucher. Alors ce qui est indiqué en bleu, vous voyez cette idée qu'il existerait du coup des articulations naturelles, c'est-à-dire en fait qu'il existerait une certaine réalité objective indépendante des concepts pour la pensée, et qu'il y aurait un certain découpage qui s'imposerait parmi l'ensemble des découpages possibles qui en constitueraient les articulations naturelles. On trouve aussi cette idée lorsqu'on étudie la pensée humaine et George Boole, lorsqu'il a publié en 1854, son ouvrage qui s'intitulait « Les lois de la pensée ». Dans l'introduction de l'ouvrage, il le décrit de la manière suivante. Il dit « Il s'agit d'étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit, les exprimer dans le langage symbolique du calcul. » Et en fait, il s'agit d'un livre qui pose les fondements de l'algèbre de Boole. C'est donc un ouvrage de mathématiques, un ouvrage de logique. Et cet ouvrage de logique, du point de vue de Boole, c'est en même temps faire de la logique, c'est en même temps comprendre les rouages de l'esprit. Donc vous voyez que les deux choses sont confondues. C'est la manière de bien penser, de penser de manière rationnelle. Là encore, l'analogie se retrouve hors de ce champ. On va trouver aussi chez Thomas Hobbes, le Léviathan, une citation qui est souvent mise en avant sur justement, là encore, la question de la place de la logique, de l'importance d'avoir une pensée conforme aux lois de la logique formelle. Et vous voyez ce que dit Hobbes. Il dit « La lumière de l'esprit humain, ce sont des mots clairs, épurés, en premier lieu, et purgé de toute ambiguïté par des définitions exactes. Les métaphores, les mots ambigus ou qui ne veulent rien dire, sont comme des feux follets. S'en servir pour raisonner, c'est errer parmi d'innombrables absurdités. » Alors, vous voyez, ce qui est notamment frappant dans cette citation, c'est que le cœur de l'argument, c'est de dire que les métaphores sont comme des feux follets, ce qui est à la fois une critique des métaphores, mais qui est complètement métaphorique. D'accord. Et puis, si on regarde un petit peu plus le texte, on s'aperçoit que le texte lui-même, en fait, est pénétré de métaphores du début jusqu'à la fin, parce que lorsqu'on parle de la lumière de l'esprit humain, qu'est-ce que c'est si ce n'est une métaphore? Et lorsqu'on dit que les mots sont clairs, là encore, c'est de la perception visuelle, épurés, purgés. Et puis lorsqu'on voit que raisonner, c'est errer parmi d'innombrables absurdités, là encore c'est une certaine métaphore de l'esprit, et donc Hobbes se retrouve dans une espèce de contradiction, on va dire, entre sa critique de la métaphore et sa dépendance en même temps à elle. Et dans l'idée aussi d'obstacle épistémologique et du rôle de la place des analogies et des métaphores dans les sciences, il y a aussi la position de Bachelard qui mérite d'être discutée. On voit là encore qu'il y a un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que c'est encore une citation qui est faite très, très souvent sur la position de Bachelard par rapport à la question des métaphores, hein. Une science qui accepte les images est plus que toute autre victime des métaphores. Aussi, l'esprit scientifique doit-il sans cesse lutter contre les images, contre les analogies, contre les métaphores. Vous voyez que là, il y a l'idée d'une science qui puisse être victime de quelque chose. Donc là, c'est aussi une métaphore. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui est en train de lutter? Là encore, c'est une métaphore. Donc on a un phénomène assez proche où on a là encore comme si les ultimes arguments restaient analogiques ou métaphoriques. Et cette position sur une perspective objectiviste ou logiciste reste bien sûr actuelle. Un cas qui me semble assez intéressant, c'est un débat qui existe actuellement sur la possibilité ou la manière de favoriser les interactions entre les humains et les machines en développant des langages qui seraient à la fois plutôt ergonomiques pour l'être humain, mais plus faciles à interpréter pour les machines. Et vous voyez que ce type de projet s'appuie aussi sur cette croyance d'une possibilité de cette objectivité, de cette précision. Et ici, la citation parle donc d'un langage idéalisé dont le but serait le plus grand degré possible de logicité, d'efficacité, de détail dans l'expression, tout en minimisant l'ambiguïté, le vague, les aspects illogiques, la redondance, la polysémie et tout l'arbitraire qui semble omniprésent dans les langages humains. Bien entendu, une autre question qui est en arrière-plan, c'est dans quelle mesure un tel langage est-il concevable, bien sûr, nous défendons l'idée que ce n'est pas concevable. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas concevable? Ben justement parce qu'il y a une autre position que la position logiciste ou objectiviste, qu'on peut appeler une position interprétative. Et dans cette position interprétative, bien, il y a l'idée que c'est à travers nos concepts que l'on va pas seulement concevoir, mais même qu'on peut parler de perception, c'est-à-dire on peut parler, par exemple, Douglas Hofstadter parle de perception de haut niveau. Donc, il n'y a pas de rupture entre la conception et la perception, et que les analogies sont justement la manifestation de cette manière dont on perçoit avec nos concepts. Alors, une manière de l'illustrer de façon un peu parlante, c'est avec ces quelques phrases d'enfants de 2 ans, de jeunes enfants qui découvrent la parole, qui développent leur langage. Et vous voyez Camille qui dit « J'ai déshabillé l'orange », Johan qui dit « Allez maman, allume tes yeux », Lenny qui dit « Il faut soigner le camion ». Et bien entendu, aucun adulte n'a jamais enseigné à ses enfants que l'on pouvait dire de telles phrases, parce que, bien sûr, eux-mêmes ne les disent pas, mais spontanément, sans instruction, sans intervention extérieure, eh bien, ces enfants ont trouvé approprié de dire cela. D'accord ? Et en même temps, on se rend compte que nous-mêmes adultes, tout en étant locuteurs du français, en ne prononçant pas ce type de phrase, eh bien, on n'a pas de difficulté non plus à les comprendre. C'est-à-dire qu'on sait que Camille indique qu'elle a épluché l'orange, on sait que Johan a demandé à sa maman d'ouvrir ses yeux, on sait que Lenny pense qu'il faut réparer le camion. Donc ces analogies nous restent tout à fait naturelles. Et puis ces analogies sont aussi intéressantes sur justement les interprétations que font les enfants, c'est-à-dire les concepts qui sont présents. Par exemple, si Camille dit qu'elle a déshabillé l'orange, eh bien, c'est sans doute une façon de se rendre compte qu'elle considère que la peau ne fait pas vraiment partie de l'orange. Donc, à travers la référence à ces concepts, eh bien, on a quelque chose d'assez informatif sur la conception de ces enfants. Alors, pour fonder le rôle de l'analogie, ce fameux impératif analogique que je mentionnais, eh bien, on peut présenter les choses de la manière suivante. On peut dire qu'à chaque instant de notre existence, eh bien, l'être humain est face à une espèce d'exigence contradictoire. Et cette exigence contradictoire, c'est que d'un côté, chaque moment qui est vécu est à sa manière unique, c'est-à-dire qu'on passe d'unicité en unicité, de singularité en singularité, et que en même temps, évidemment, il y a une vertu très très forte à bénéficier de l'expérience du passé. Et donc, il y a ce paradoxe qui est de faire bénéficier de choses à des choses qui ne sont jamais arrivées, des choses du passé. Et comment se fait ce lien? Quel est le pont? Eh bien, justement, c'est l'analogie. Et l'analogie va être donc une comparaison mentale qui est fondée sur la similitude, qui va permettre de dépasser la singularité de chaque instant que l'on vit et de la rattacher à de l'existant, qui n'est jamais identique, mais qui est analogue. Et cette existence, ça peut être un autre événement, par exemple un souvenir qu'une certaine situation nous évoque, ou une agrégation d'événements passés qui ont pris la forme de catégories mentales ou de concepts. Et de cette manière, l'analogie va permettre de donner une perspective sur chaque moment que nous traversons, sur chaque moment que l'on vit. Alors, ce point de vue s'inscrit va au-delà de la perspective historique, qui est la perspective aristotélicienne. Et je le précise parce qu'il y a quand même encore beaucoup l'idée des analogies à quatre termes, des analogies aristotéliciennes. On peut considérer que les travaux en psychologie des dernières décennies considère que cette vision des analogies proportionnelles dans lesquelles on va chercher une relation qui est maintenue entre qui maintient une qui permet d'interpréter une de d'étendre une identité de proportion à une relation partagée comme la niche est au chien ce que la maison est à l'homme, et bien ce point de vue c'est un point de vue qui est réducteur par rapport à ce qui intéresse les psychologues actuellement sur l'analogie et qui traduit une préoccupation qui était celle d'Aristote, qui était de faire un inventaire des différentes formes de raisonnement qui étaient possibles, donc comme la déduction, l'induction, l'abduction et l'analogie arrivaient dans ce panorama. On le retrouve dans l'évolution de l'étymologie qui était donc proportion mathématique pour être ensuite celle de rapport. Dans une perspective contemporaine, l'analogie va être vue comme un phénomène adaptatif, c'est-à-dire dans le sens où je l'ai introduit, c'est-à-dire faire face à la nouveauté. Et depuis une trentaine d'années, il y a une littérature très abondante sur l'analogie et on peut notamment citer alors les apports des travaux en psychologie expérimentale qui ont montré le fait que l'analogie pouvait être extrêmement efficace, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait travailler des élèves sur des situations sources, eh bien cela peut énormément augmenter leur réussite dans des problèmes analogues. On a montré aussi que la question de l'évocation, c'est-à-dire l'accès en mémoire, pouvait être au moins aussi important, un facteur aussi important que celle de l'usage de l'analogie, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait disposer des connaissances pertinentes, mais ne pas être en mesure d'y accéder, ne pas être en mesure de réaliser l'analogie par défaut d'évocation. Et puis, on peut citer aussi des travaux qui ont eu un retentissement important, qui viennent plutôt cette fois de la psychologie, de la psycholinguistique, avec le champ des recherches sur les métaphores conceptuelles, avec en particulier les travaux de Marc Lakoff, de Georges Lakoff et Mark Johnson sur l'idée que les expressions du langage étaient en permanence pénétrées d'analogies inconscientes, comme par exemple lorsqu'on parle d'un débat, eh bien il y a l'analogie cachée entre le débat et le combat que l'on repère lors dans des expressions comme il a campé sur ses positions ou il s'est retranché derrière un argument ou il a dû capituler ou encore il a été le grand vainqueur de ce débat, il a mené l'offensive, etc. Et puis ces analogies cachées vont être souvent très très proches des expériences incorporé, c'est-à-dire que dans lequel on fait appel à ce que notre corps a vécu et également à nos expériences sensorielles. Et c'est par exemple le cas de la métaphore de la compréhension comme reposant sur la vision. Donc lorsque on dit « je vois ce que vous voulez dire », bien entendu, on est en train de le manifester. Mais lorsqu'on parle d'une perspective, c'est aussi le cas. Lorsqu'on parle d'avoir une certaine optique sur un phénomène, c'est également le cas. Alors, dans cette perspective, eh bien, on peut attribuer deux places absolument centrales à l'analogie, et ces deux places sont complémentaires. La première, c'est la question de l'évocation que je mentionnais. Et l'idée, c'est que nos concepts vont être évoqués par les analogies que notre système cognitif va établir sans cesse afin d'interpréter ce qui est nouveau et inconnu dans des termes ancien et connu. Et donc ça, c'est le versant évocation. Et ce versant évocation, sur le plan des implications pour l'éducation, va soulever en particulier la question de l'entrée dans les notions scolaires. C'est-à-dire lorsque on commence à introduire une notion à l'école, comment est-ce qu'elle est comprise, comment est-ce qu'elle est interprétée, quelles sont les analogies qu'elle évoque. Et puis, il y a la question du développement de ces concepts, comment nos concepts se transforment, comment est-ce que nous nous développons, comment est-ce que tout au long de notre vie, nos concepts évoluent. Et là encore, c'est une question d'un processus dynamique tout au long de la vie, où ce sont des suites d'analogies qui sont élaborées au fil du temps, qui vont, pendant notre vie entière, enrichir nos concepts. Là encore, en particulier dans une perspective d'intervention scolaire, les applications sont tout à fait évidentes, parce que certaines analogies vont rester bien sûr à construire, et l'enseignement va avoir une place particulière pour orienter cette construction. Et puis derrière ces deux idées, vous voyez qu'il y a une certaine conception de la vie mentale, et cette conception de la vie mentale, une façon de la résumer, c'est de dire qu'on est en permanence à la recherche du même, c'est-à-dire que dans tous nos échanges, dans des activités même les plus simples de recherche d'un mot, jusque dans des illuminations que l'on peut avoir à des moments particuliers, il y a toujours la question de quel est le même qui a été convoqué. Alors, je vais donc aborder la question de l'entrée dans les notions. Plutôt de manière illustrative, je le développerai un peu plus lorsqu'on va parler de ce cadre AS3. Je vais l'illustrer par une fable bien connue, La cigale et la fourmi. Et dans cette fable, vous voyez, j'ai mis en bleu ces deux petits extraits, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Alors, lorsqu'on lit cette fable, je pense que tout le monde la connaît, hein, en général, et d'ailleurs, y compris lorsque on la présente à des enseignants, eh bien, elle paraît couler de source. Bien entendu, si à la place du morceau de mouche ou de vermisseau, on avait mis pas un seul petit morceau de lion ou de taureau, je pense que vous auriez réagi différemment. N'est-ce pas ? Oui. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je fais cette remarque ? Eh bien, parce que, en fait, la cigale est tout à fait incapable de manger des mouches ou des vermisseaux, parce que pour s'alimenter, elle a un suceoir et elle aspire. D'accord ? Et donc, pour elle, la mouche ou le vermisseau ne sont pas plus comestibles que le lion ou le taureau. D'accord ? Simplement, il y a un des deux cadres qui va être conforme à notre, on va dire, notre entrée initiale dans la notion, d'accord ? Et ici, il s'agit, alors on aura l'occasion de parler notamment avec la conférence de Laurent Vivier des hybridations, mais ici c'est un phénomène où vous voyez qu'on a transposé nos connaissances humaines sur la cigale pour cet anthropomorphisme d'une certaine manière, là, nous amène à accepter ce qui est une aberration biologique. Alors, Jean de La Fontaine aurait pu, s'il avait voulu être un peu plus conforme à nos connaissances sur le sujet, s'exprimer différemment. D'accord ? Donc ça, c'est une illustration de l'entrée dans les notions qu'on peut en fait déployer de manière assez systématique. Et puis, il y a la question, là encore, c'est plutôt à l'idée illustrative, hein, du développement de nos concepts. Alors, si on regarde ces deux images, alors normalement, on reconnaît assez vite qu'il s'agit du même arbre, et notre œil est attiré, on va dire, par la tache sombre qui est sous chacun de ces de ces deux arbres ou sous cet arbre à deux moments différents. Alors, si on regarde l'arbre de gauche, la photo de gauche, ça paraît assez clair, je pense, qu'on regarde l'ombre. Maintenant, si on regarde la photo de droite, de quoi s'agit-il ? Voilà, il s'agit d'absence de neige. Et la question qu'on a envie de se poser, il me semble, c'est est-ce que c'est juste une espèce de similitude perceptive un peu trompeuse, hein, c'est-à-dire qu'il y a des taches sombres des deux côtés et puis ça s'arrête là ? Ou est-ce que il n'y aurait pas une analogie un peu plus intéressante entre cette absence de neige d'un côté et puis cette ombre à gauche ? Et en fait, si on réfléchit un petit peu à ces deux phénomènes, eh bien, qu'est-ce qui a provoqué la tache sombre à gauche ? C'est une absence de lumière. Cette absence de lumière, elle est due au fait qu'il y a un certain obstacle sur un certain médium dont l'écoulement a été interrompu. Et ce qu'on observe, c'est la trace laissée par l'influence de cet obstacle. Bon, vous voyez qu'on peut dire la même chose, en fait, sur la tache de droite. Et de ce fait, on est en train de développer le concept d'ombre, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on s'intéresse un peu à la question du point de vue de la physique, on n'est pas très surpris, mais lorsque l'on n'est pas très versé dans ces questions, au départ, on est choqué, on dit non, ça ne peut pas être une ombre à droite, et puis en fait, en y réfléchissant un peu, on accepte assez vite l'idée qu'on perd assez peu en enlevant la nécessité que pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait absence de lumière. Et donc, on peut, de ce fait, avoir cette idée que l'ombre, qu'on pourrait appeler une ombre nivale, hein, celle qui est laissée par l'absence de neige, eh bien, c'est cette analogie, elle est en même temps une manière de faire progresser d'une certaine manière le concept d'ombre, parce que ce concept d'ombre, ben, il s'est développé, il a cessé d'être dépendant d'une source lumineuse pour s'étendre à de façon beaucoup plus large, et on pourrait de cette manière le généraliser, si on avait un petit peu plus de temps, encore bien d'autres situations, jusqu'à grandir à l'ombre de ses parents, quel est l'obstacle, quel est le résultat, etc. Par un phénomène similaire, comment est-on passé de la Lune, seul satellite tournant autour de la Terre, au concept de Lune, qui cette fois a perdu sa majuscule. Cette vision assez large de l'analogie, il y a un point sur lequel je voulais examiner un peu, c'est la question de la perspective, hein, d'accord ? Parce que j'ai insisté sur le fait que c'était une position interprétative et que les analogies sont des perspectives. Et je voudrais l'illustrer par un exemple qui est la fable du renard et des raisins. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette fable, hein, mais en deux mots, c'est l'histoire d'un renard qui voulait manger des raisins et qui n'arrivait pas à les attraper. Et à force de tentatives, il finit par renoncer et il dit « De toute manière, je n'en voudrais pas, ils étaient aigres. Je n'en voulais pas, ils étaient aigres. » Alors la fable a été reprise ensuite par Jean de La Fontaine de façon très, très proche. Et qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette fable, hein ? Vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on désire. Cette chose qu'on désire, on ne réussit pas à l'obtenir. Et à la fin, il se produit quelque chose comme ben, « de toute façon, j'en voulais pas, heureusement que je ne l'ai pas eu, ça tombe bien, etc. » Évidemment, ça donne une perspective sur les situations. C'est-à-dire que lorsque on entend quelqu'un ensuite qui nous dit « ah, heureusement que ça n'est pas arrivé », Vous pouvez allumer cette petite, ce petit concept, d'accord, les raisins sont trop verts, et d'ailleurs en anglais, il y a l'expression « sour grapes » qui est lexicalisée dans la langue anglaise. Ici, on a quelques exemples qui peuvent évoquer cette catégorie des raisins sont trop verts. Vous voyez, le premier exemple, c'est une personne qui a réservé un restaurant recommandé par des amis. Malheureusement pour lui, il y a des embouteillages, il arrive en retard, sa réservation est annulée. Et alors, qu'est-ce qu'il dit à sa copine? Il lui dit, ce quartier regorge de restos sympas, c'est tellement plus romantique d'en découvrir un ensemble. Ensuite, vous avez un homme politique qui vient d'être battu à une élection et il dit... Ah ben, c'est bien, grâce à ça, je vais acquérir une nouvelle dimension parce que la défaite fait partie de l'apprentissage de la politique. Et puis, le dernier exemple, vous avez un collègue qui a tout fait pour devenir directeur de son département et qui s'est fait battre et qui ensuite va expliquer à tous ses collègues, vous pouvez imaginer facilement différentes possibilités. Ces situations, l'analogie entre elles, je pense, crève les yeux à tout le monde. D'accord ? Mais c'est intéressant aussi de noter que, pour l'instant, les moteurs de recherche ne réussissent pas du tout à faire ce type d'analogie. C'est-à-dire que si on voulait chercher avec Google les situations de sour grapes, eh bien, on n'aurait rien. D'accord ? Et donc, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui semble différencier l'esprit humain du fonctionnement des moteurs de recherche. Alors, je dis pour l'instant, bien sûr, parce que je ne préjuge pas de l'avenir, mais en tout cas, il me semble que c'est un point assez central. Et puis, on peut aussi toujours illustrer cette idée des perspectives avec l'exemple des proverbes que je trouve assez parlant parce que les proverbes permettent à la fois de bien se rendre compte qu'il s'agit de que les concepts sont aussi des manifestations d'analogie parce que lorsque un proverbe nous vient à l'esprit, eh bien c'est qu'on a reconnu quelque chose qui le rend analogue aux autres situations qui évoquent ce proverbe. Et je crois que c'est très difficile de l'expliquer autrement. Et donc, je trouve que le cas des proverbes est une très bonne situation pour expliquer les relations inextricables entre concept et analogie. Et puis, le cas des proverbes est également intéressant parce que dans le stock de la langue, il y a souvent des proverbes qui veulent dire à peu près le contraire l'un de l'autre. D'accord, donc vous voyez, vous en avez quelques exemples ici. Et alors, est-ce que ça veut dire que l'esprit humain est confus? Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire qu'on est en mesure de prendre différentes perspectives sur une même situation. Et que selon la perspective que l'on a prise, eh bien, cela va nous amener vers telle ou telle inférence sur cette situation, telle ou telle manière de l'aborder. Et par exemple, si on prend « l'habit ne fait pas le moine », que l'on contraste avec « il n'y a pas de fumée sans feu », eh bien, vous voyez que dans un cas, sur quoi est-ce qu'on met l'accent? Dans un premier cas, on met l'accent sur le fait qu'il faut sans doute se méfier des apparences, que ce qu'on voit en surface n'est pas toujours vrai en profondeur. Et donc, c'est un message de vigilance. Et puis, le second, « il n'y a pas de fumée sans feu », cette fois, on est en train de plutôt d'insister sur le fait qu'il est intéressant de creuser lorsqu'on a des indices, d'accord, et que les indices sont souvent informatifs. Et bien entendu, les deux sont pertinentes. C'est tout à fait intéressant de penser les situations avec l'habit ne fait pas le moine et de les penser aussi avec il n'y a pas de fumée sans feu, voire de penser une même situation avec ces deux perspectives. Mais on voit qu'à chaque fois, on prend différentes perspectives sur des situations que ces perspectives mêmes rendent analogues entre elles. Alors, j'en viens cette fois à des questions qui vont plus être vraiment ancrées dans l'école, dans l'éducation scolaire même, avec un cadre comme je vous l'ai dit, qui me semble assez intéressant à explorer, dans lequel on va distinguer trois formes d'analogies, qui sont des analogies que je vais expliquer très vite ce que recouvre chacun des termes. Donc des analogies de signification, des analogies de situation et des analogies de simulation. Et la distinction entre ces trois formes me paraît importante parce que on va se rendre compte qu'il y a une certaine indépendance entre ces trois niveaux, même si il y a aussi des interdépendances, que ces trois formes d'analogie peuvent être parfois facilitatrices et parfois obstructives. Cette fois, je parle en termes de réussite pour les élèves. Et également, ces trois formes d'analogie, le fait de les prendre en compte va orienter vers certains supports pour des interventions scolaires. Ce cadre va en particulier permettre de se prononcer sur et de comprendre la source de la difficulté de certains énoncés de problèmes, va aussi permettre de distinguer les cas qu'on peut appeler d'expertise apparente, c'est-à-dire où l'élève se montre performant dans un certain contexte, mais qui ne recouvre pas toujours une compréhension plus profonde des notions concernées. C'est un cadre qui a également un intérêt pour construire des évaluations, pour développer des progressions d'apprentissage et pour former des enseignants. Alors, je n'aurai pas le temps du tout d'approfondir cela, mais je l'indique en arrière-plan. Alors, lorsqu'on parle d'analogie de signification, l'idée, c'est qu'il y a une certaine notion scolaire qui va être perçue par analogie avec une connaissance familière issue de la vie quotidienne. On retrouve un certain nombre de notions répandues dans la littérature qui là encore il est un peu abusif d'assimiler, mais qui ont en commun cette idée. Et ces analogies de signification vont déterminer la représentation initiale que les élèves se font des notions. Alors, on peut indiquer qu'elles sont utiles, voire nécessaires, dans le sens où la question de toute conceptualisation se poserait en leur absence, et il y aura je pense des cas intéressants justement pendant ces deux jours qui permettront de le souligner. Et en même temps, elles sont limitantes dans le sens où ces analogies de signification vont recouvrir les notions scolaires, mais de manière partielle. Ce qui fait que dans le champ de recouvrement qu'on peut appeler le domaine de validité, eh bien, il va y avoir coïncidence. Et en même temps, à l'extérieur de ce champ de validité, elles vont être limitantes et vont conduire à des difficultés, à des erreurs, etc. Il est important de signaler ce qui n'est pas toujours perçu les concernant, c'est que ces analogies de signification, d'une part, elles s'imposent au sens où elles sont inconscientes, elles sont présentes, on va dire, en dépit des interventions des enseignants. Elles restent implicites dans le sens où il y a besoin de les débusquer pour les mettre en évidence, d'accord ? Souvent, elles ne sont pas directement conscientes. Et puis, elles sont robustes dans le sens où on en perçoit toujours la présence à l'âge adulte de manière parfois très, très prononcée. Alors, on va l'illustrer sur un cas qui est le cas de la soustraction. Alors, si je vous sollicite pour inventer un problème de soustraction qui se résout par l'opération 8-3 égale 5. Alors, vous n'êtes pas du tout une bonne population pour faire ce petit test, mais ce n'est pas grave. Eh bien, si on demande d'inventer un problème de soustraction qui se résout de cette manière, eh bien, de façon presque systématique, quand je dis presque systématique, ça veut dire qu'on approche les 100%, on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir un certain individu qui a une quantité de quelque chose, et puis un certain événement survient qui fait baisser cette quantité, et la question, de façon assez invariable, hein, c'est combien lui en reste-t-il. Et qu'est-ce que cela dessine? Eh bien, cela dessine cette analogie que la signification de la notion de soustraction Alors c'est perdre, retirer, enlever, mais de façon plus précise encore, c'est l'idée qu'il existe une certaine quantité de départ, qu'un événement survient qui conduit à amputer cette quantité et que la question porte sur la partie subsistante. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est plus précis encore que l'idée de retirer, c'est rechercher le reste une fois que l'on a retranché. Pour se rendre compte que cette analogie assez prégnante et pour aussi illustrer la question des limites du domaine de validité, si on modifie un peu l'instruction en disant inventer un problème de soustraction qui se résout par l'opération 8-3 égale 5 et cette fois qu'on ajoute dans lequel on ne perd rien et on ne fait que gagner, souvent non seulement les élèves, mais y compris beaucoup d'adultes, se retrouvent en impasse. D'accord ? Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une espèce de contradiction entre le fait de soustraire et le fait de gagner. Alors pourtant, vous voyez qu'un énoncé comme celui-là, Paul a 3 billes, il en gagne pendant la récréation et maintenant il en a 8. Combien de billes a-t-il gagné ? Ça semble assez incontestable que rien n'a été perdu. D'accord ? Et pourtant, la solution correspond à la soustraction 8-3 égale 5. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que si on regarde les typologies, alors je pense que c'est quelque chose qui est bien connu hein, d'un peu tout le monde sur la typologie des problèmes à structure additive à une étape. Il y a eu des travaux dans les années 80 qui ont distingué différentes formes de problèmes additifs à une étape. Eh bien, dans une de ces typologies, on voit qu'il y a 16 catégories de problèmes additifs à une étape, que parmi ces 16, il y en a 12 qui sont des problèmes de soustraction. Et ce qu'on est en train de voir ensemble, eh bien, c'est que sur ces 12 catégories, eh bien, il y a plus de 90% des propositions qui se concentrent sur une seule. D'accord ? Précisément celle où il y a une quantité de départ, on note une certaine quantité connue et on pose la question sur le reste. Et on peut dire que donc cette analogie du retrait, à la fois elle va donner sens à la notion de soustraction, d'accord, parce qu'elle permet à l'élève de rentrer immédiatement dans la notion et de l'associer à une connaissance qui lui est familière, mais en même temps elle est limitante parce qu'elle éclipse la diversité des situations de soustraction et que bien entendu va se poser la question du développement de la notion, c'est-à-dire comment faire pour qu'un élève qui arrive avec cette conception de la soustraction, ou qu'en tout cas qui est tout prêt à la recevoir, la développe d'une manière plus conforme à ce qui est attendu au regard de la notion de soustraction. Cela permet d'interpréter certaines difficultés des élèves qu'on peut rencontrer dans certaines évaluations. Par exemple, l'énoncé suivant, lors d'une course, 108 coureurs prennent le départ, il y a beaucoup d'abandons, 85 coureurs seulement terminent la course. Combien de coureurs ont abandonné ? Eh bien, on a seulement 25% de réussite en début de CE2 à cet énoncé. Et une des façons de l'analyser, c'est que vous voyez que cet énoncé, en fait, même si c'est une situation où effectivement il y a eu de la perte, mais la question ne porte pas sur ce qu'il reste, mais elle porte sur combien de coureurs ont abandonné. D'accord ? Et donc va se poser la question, du point de vue cette fois des interventions scolaires, comment faire pour que ce problème qui est très difficile devienne... soit résolu par un élève, qu'est-ce qui va permettre, que peut-on faire pour qu'il soit réinterprété d'une manière qui le rende soluble. Alors pour ce faire, on peut intervenir soit sur la conception même de la soustraction, soit sur la perception du problème, comme on va le voir dans quelques minutes. De cette manière, on peut également, en identifiant ces analogies initiales, on peut comprendre les erreurs que les élèves commettent, y compris dans des situations très procédurales, comme par exemple les soustractions avec retenue. Et on a par exemple, si vous voyez sur la gauche, un élève de 7 ans qui résout l'opération 1564-887 et qui trouve 1000. Vous voyez qu'il l'explique de la manière suivante. Je veux manger 7 bonbons, mais je n'en ai que 4 dans ma main. Je prends les 4 et il n'en reste plus. Donc vous voyez que c'est vraiment une explicitation de cette analogie que l'on a mentionnée. Et on peut y compris construire des simulations informatiques qui vont montrer la cohérence des erreurs des élèves lorsqu'ils débutent leur apprentissage de leur retenue. Eh bien, ils sont tout à fait cohérents dans leur résolution. Alors, ce qu'on a vu là, on pourrait l'étendre, on ne va pas le faire, mais aux différentes opérations. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a le retrait pour la soustraction, eh bien, on pourrait parler de l'itération pour la multiplication. Donc il y aurait l'idée que multiplier, c'est additionner un certain nombre de fois. Et puis il y aurait aussi l'idée du partage pour la division, que diviser, c'est partager. Et tout comme on l'a fait pour la soustraction, si on demande d'inventer un problème de division, on a plus de 90% de scénarios de partage. Et lorsqu'on demande d'inventer un problème de division dont le résultat soit plus grand que la valeur initiale, eh bien, c'est un problème difficile, y compris pour beaucoup d'adultes, alors que un tel problème est pourtant tout aussi concret, hein, comme par exemple, dans un rouleau de 3 mètres, combien puis-je découper de bandes de tissu de 0,15 mètres ? Eh bien, c'est un problème où 3 divisé par 0,15 est évidemment plus grand que 3, mais on n'est pas dans un cas de partage, et on est donc en dehors du domaine de validité de cette analogie naïve. Alors, ces analogies de signification vont permettre donc d'identifier les conceptions initiales d'intégrer cet aspect dans des situations d'évaluation. On note aussi donc la persistance de ces notions, y compris chez les adultes et d'ailleurs y compris chez les enseignants, et elles vont permettre d'initier des élaborations de trajectoires d'apprentissage pour faire évoluer les conceptions des notions. Par exemple, la notion d'écart pour la soustraction ou la notion de coefficient pour la division va pouvoir être élaborée à partir de cette entrée. Et comment sur quelle base ? Eh bien, on arrive donc à la deuxième sorte d'analogie qui sont les analogies de situation, les analogies de signification ne sont qu'une petite partie du tableau. Alors, qu'est-ce que les analogies de situation ? Eh bien, les analogies de situation concernent les cas où un énoncé va évoquer un certain squelette conceptuel, c'est-à-dire une certaine catégorie de situation. Et ce qu'on va observer, c'est que les résolutions du problème qui s'intègre dans cette catégorisation vont être facilitées par l'analogie, car les propriétés qui seront activées vont être cohérentes avec les propriétés pertinentes. Alors que, à l'inverse, si jamais il y a dissonance entre la catégorie évoquée et la notion mathématique, la difficulté de résolution va être accrue. Alors, si on prend l'exemple suivant, si on a une situation où on a 15 gâteaux répartis entre 5 personnes, eh bien, on voit que cet énoncé est à la fois conforme à l'analogie de signification de la division comme partage, mais aussi de la situation, parce que on a une grande quantité qui est partagée entre un petit nombre d'acteurs. En revanche, si vous posez le problème 5 gâteaux répartis entre 15 personnes, cette fois ça cesse de fonctionner parce que on a une situation dans laquelle on a moins à partager qu'il n'y a de personnes entre lesquelles le partager. Et en fait, ce dernier problème est résolu par un taux d'échec très important. D'accord ? Parce que, justement, on est sorti de la conformité avec l'analogie de situation. Par exemple, si je vous demandais d'inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et de 4 pommes, eh bien, quel type de situation est-ce que cela va évoquer ? Eh bien, cela va évoquer des situations... lorsqu'on le fait, ce qu'on observe, c'est que de façon à peu près systématique, on a envie d'inventer un problème d'addition, d'accord, du type combien y a-t-il de fruits en tout, ou exceptionnellement des problèmes de soustraction, du type combien y a-t-il de plus d'oranges que de pommes, mais on n'observe à peu près jamais de problème de multiplication ou de division. D'accord ? À l'inverse, pour le second cas de figure, inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et de 4 paniers, cette fois-ci, on n'aura à peu près jamais de situation d'addition ou de soustraction, mais de façon à peu près systématique, des situations de division et de temps en temps, des situations de multiplication. Alors, vous voyez que là, ce sont vraiment les situations qui sont évoquées par les entités. On est sorti des notions mathématiques elles-mêmes, mais on est sur les situations. Et dans le premier cas, on a une situation de complémentation ou de comparaison qui va être induite par le fait que les oranges et les pommes sont des, on va dire, des collatéraux d'une même catégorie superordonnée, ce qui va tendre à leur donner un rôle symétrique. Et puis, dans le cas suivant, eh bien, à l'inverse, on a une relation fonctionnelle entre les oranges et les paniers qui va se prêter à un scénario de répartition qui est donc induite par cette relation de contenance entre les catégories. Alors on peut représenter, vous voyez, par des réseaux sémantiques, ce type de relation entre les objets et le statut qu'ils vont avoir, les situations auxquelles ils se prêtent. Il se trouve que des travaux ont montré que dans les manuels scolaires, eh bien, de façon quasiment systématique, ce sont les situations favorables qui sont présentes dans les énoncés, ce qui bien sûr pose une question importante parce que la question c'est de savoir comment est-ce que quelle est la dépendance par rapport à cette incarnation dans des situations concrètes, parce que lorsqu'on sort de ces analogies de situation, on n'a pas d'éléments sur la conceptualisation de l'élève, sur le fait qu'il ait construit les notions à un niveau suffisamment abstrait. On peut le voir dans le caractère très prégnant de ces analogies de situation peut être montré dans des problèmes qui sont apparemment très simples, qui correspondent en fait à des problèmes de fin d'école primaire, mais pour lesquels, y compris les adultes, sont influencés par les situations. Alors si vous voyez l'énoncé qui s'affiche à l'écran, Laurent achète une trousse à 7 euros et un classeur, il paie 15 euros, Jean achète un classeur à une équerre, il paie 3 euros de moins que Laurent, combien coûte l'équerre ? Alors si vous cherchez à résoudre le problème, à peu près tous les adultes le résolvent en trois calculs. D'accord ? Les trois calculs sont les suivants. D'abord, on calcule le prix du classeur. Ensuite, on calcule le prix que Jean a payé. Et puis ensuite, on calcule le prix de l'équerre. Et on trouve que l'équerre coûte 4 euros. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, si vous regardez le problème en dessous, Laurence a suivi des cours de danse pendant 7 ans et s'est arrêtée à 15 ans. Jeanne a commencé au même âge que Laurence et s'est arrêtée 3 ans plus tôt. Combien de temps Jeanne a-t-elle suivi ses cours de danse ? Eh bien, si vous cherchez à le résoudre, vous pourrez être inspiré par la même solution, le début des cours, l'âge où Jeanne s'est arrêtée et la durée. Mais normalement, il y a une autre façon de faire qui va un peu vous sauter aux yeux. Et cette autre façon de faire, c'est de se dire que si elles ont commencé au même âge, alors, et qu'il y en a un qui a fini 3 ans plus tôt que l'autre, c'est qu'elle a suivi 3 ans de moins ses cours. Et de ce fait, on peut aussi faire le calcul avec 7 moins 3 égale 4. De là, vous pourrez vous rendre compte que ce même calcul fonctionne pour le premier énoncé, d'accord ? Sauf qu'il est à peu près invisible pour ce premier énoncé, et que lorsque on se met dans des situations, y compris où on incite vraiment les participants à chercher les solutions les plus courtes, eh bien, pour le premier problème, c'est très difficile, très très difficile, y compris pour des adultes, de le trouver en un calcul direct, alors que ce n'est pas le cas du second énoncé. Et on peut le comprendre, je ne vais pas trop commenter ce schéma, mais on peut le comprendre par le type justement de situations qui sont, de catégories de situations qui sont décrites dans l'un et l'autre cas. Le premier incite plutôt à des complémentations, à des comparaisons et à des regroupements de parties, et le second à des comparaisons entre des valeurs sur un axe temporel. L'influence est tellement prégnante que si on enlève la donnée qui est inutile pour la solution la plus longue, le 15 euros dans le premier cas et l'âge où la personne s'est arrêtée dans le second, eh bien une part importante des sujets vont penser que ça rend le premier problème impossible. D'accord ? Et bien que ça soit juste un problème de soustraction qui se résout par l'opération 7-3 égale 4, on a... y compris chez des adultes, une proportion très importante qui, selon les cas, va varier d'un tiers à plus de la moitié des sujets. Alors, donc, sur les analogies de situation, vous voyez que on peut, de la même manière on peut distinguer donc différents cas de conformité du point de vue des analogies de signification ou de situation. Par exemple, si je dis j'ai 3 paquets de 10 gâteaux, combien ai-je de gâteaux en tout ? Eh bien, on a une conformité sur les deux plans, à la fois la signification et la situation. En revanche, si je dis j'ai 4 oranges et je reçois 5 pommes en échange de chaque orange, c'est conforme à la notion de multiplication parce qu'il y a bien une itération, mais ce n'est pas conforme sur le plan de la situation, parce que les oranges et les pommes ne se prêtent pas à ce type de scénario. Et puis, si je dis, si un gallon d'essence coûte 1,27 €, combien coûte 0,22 gallons ? Cette fois, du point de vue de la situation, ça fonctionne bien, parce qu'on cherche le prix, connaissant le prix unitaire, le prix d'une certaine quantité. Mais du point de vue de la signification, ça ne fonctionne pas, car ici, il n'y a pas d'itération. Le troisième type d'analogie, ce sont les analogies de simulation, où cette fois la question qui va se poser, c'est lorsque on se représente une certaine situation qui est décrite et qu'on simule mentalement la résolution, eh bien le fait que cette simulation mène à la solution ou pas va avoir une influence très importante sur la difficulté du problème. Alors il y a entre quel est le prix de 3 objets à 50 cruzeiros ou quel est le prix de 50 objets à 3 cruzeiros, eh bien, cette fois, la simulation mentale ne mène pas à la même difficulté, parce que dans le premier cas, ça correspond à 50 plus 50 plus 50, et dans le second cas, ça correspond à 3 plus 3 plus 3 plus 3 50 fois, et il y a des résultats qui montrent que c'est un facteur très important. Ici, on le voit avec des situations de soustraction, où le premier va être bien réussi parce que aller de 27 à 31 mentalement, c'est facile, alors que le second, qui comprend pourtant exactement les mêmes valeurs numériques, va être mal réussi parce que enlever 27 de 31, c'est très difficile, ça ne se simule pas mentalement. De même pour les deux suivants, aller de 4 à 31, on n'y arrive pas mentalement, alors que enlever 4 de 31, on y arrive. Et donc les analogies de simulation, de la même manière, on peut avoir une conformité sur le plan de la signification, ici enlever, pierre à 15 billes, il en perd 3, de la situation, parce que c'est un scénario dans lequel on perd ou on gagne, et encore de la simulation, parce que c'est un comptage mental à rebours de 3. En revanche, l'énoncé suivant, pierre à 15 billes, il en perd 12 à la récréation, combien lui en reste-t-il ? Cette fois, on a la conformité sur le plan de la signification et de la situation, mais pas de la simulation, parce qu'il faudrait faire un comptage mental à rebours de 12. Alors, la question générale est donc, comment est-ce que on peut dépasser ces analogies ? Parce que vous voyez que ces trois types d'analogies sont des formes d'entrée initiale dans les notions, soit sur le plan des significations de la notion, soit des situations auxquelles elles sont associées, soit de la simulation mentale, que ça ouvre de ce fait un enjeu pour les évaluations, car selon qu'il y a conformité ou non avec ces analogies, les évaluations ne vont pas s'interpréter de la même manière. Et puis, le caractère limitant de ces analogies va inciter à l'élaboration de trajectoires d'apprentissage. Alors, ça donne une perspective d'intervention scolaire. Alors, pour ce qui est de l'intervention scolaire, 5 minutes. Donc, pour ce qui est de la perspective d'intervention scolaire, eh bien, il y a l'idée que lorsque deux situations vont relever de la même notion sur le plan disciplinaire, eh bien, la perception d'une analogie entre elles ne va pas aller de soi pour l'élève. Par exemple, les situations de soustraction vont être rattachées au départ entre les situations où on perd, les situations où on gagne, la nature de la perte, comme on l'a vu. Et se pose donc la question des interventions. Et une façon de voir l'objet de l'intervention, c'est justement de faire découvrir des analogies qui ne sont pas perçues à l'origine, c'est-à-dire de provoquer, de susciter un développement conceptuel, de favoriser la perception de ces analogies. Donc on peut dire que là, il s'agit d'intervenir pour faire relier. Et je voudrais parler de la question du recodage sémantique. Alors, le recodage sémantique, justement, c'est une manière de faire apparaître des ressemblances, alors qu'au départ, elles ne sont pas perçues. Et l'idée, c'est donc de faire apparaître des ressemblances pour des situations qui sont analogues sur le plan des notions disciplinaires, mais qui, en apparence, sont différentes, donc en dépit de différences sémantiques. Et donc l'objet du recodage sémantique va être de faire dépasser une compréhension naïve qui est fondée sur les seules connaissances quotidiennes en attribuant à une situation des propriétés qui usuellement sont attribuées à une autre. Alors c'est un aspect important parce que on continue à s'appuyer sur les connaissances familières des élèves, mais simplement dans des contextes originaux, dans des contextes inhabituels. Recodage sémantique va inciter à faire abstraction des différences entre les situations et de cette manière va favoriser le développement d'une conception plus abstraite qui va fonder l'analogie. Alors on va l'illustrer là encore par un exemple. Si je dis Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5 enfants 3 stylos, combien de stylos achète-t-elle en tout et qu'on demande de faire une addition? Alors ça vaut le coup de le faire mentalement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous faites que des 3, d'accord? Vous avez raison, vous faites que des 3. Maintenant, si je commence à mettre une couleur au stylo, un stylo rouge, un stylo bleu et un stylo vert, ça peut vous aider à recoder. D'accord ? Dans quelle mesure est-ce que ça peut vous aider à recoder ? Parce que vous pouvez commencer à vous appuyer sur les stylos. Et cette fois, on peut se dire ben, il y a 5 stylos rouges, 5 stylos bleus et 5 stylos verts. Et vous avez cet autre codage qui peut émerger. D'accord ? Cet autre codage a l'intérêt ici d'être l'addition la plus courte, contrairement au premier. D'accord ? Ça va avoir des applications directes, par exemple, lorsqu'on travaille la factorisation. Dans un énoncé comme Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5 enfants 3 stylos rouges, 6 stylos bleus et 4 stylos verts, combien de stylos achète-t-elle en tout? Et vous voyez que selon le point de vue qu'on prend, eh bien, si on regarde par couleur de stylo, on fait un développement, et si on regarde par enfant, on fait une factorisation. Il est important de noter que là, ce ne sont pas simplement deux algorithmes concurrents, mais ce sont bien deux codages alternatifs d'une même situation qui conduisent à des stratégies distinctes. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le premier cas, on a privilégié la couleur. Dans le deuxième cas, l'addition des types de stylos. De cette manière, on va pouvoir faire recoder de nombreux types d'exercices et ainsi surmonter favoriser les différences de difficultés dans les typologies de problèmes additifs. Si on regarde l'énoncé qui est en haut, Pierre va à l'école avec des billes bleues et des billes rouges. À la récréation, il perd ses 39 billes rouges. Maintenant, il lui reste ses 4 billes bleues. Combien de billes Pierre avait-il avant la récréation? Eh bien, ce problème, c'est un problème qui est considéré normalement comme un problème de transformation, c'est-à-dire il y a une certaine quantité au départ, on perd une quantité connue et on sait ce qui reste. Ce problème est très mal réussi au CP et encore au CE1, parce que vous voyez que si on essaye de se représenter ce qu'il faut faire pour le résoudre, eh bien, ça paraît difficile de se dire comment je peux trouver ce qu'il y avait au début, sachant ce que j'ai perdu et ce que j'ai à la fin. Alors, il y a un recodage qui rend le problème facile, et ce recodage, ici, il est favorisé par l'introduction de la couleur des billes, mais l'idée, bien sûr, est qu'ensuite, on cesse d'en être dépendant. Et dans ce cas-là, on peut se dire, les billes qu'on avait au départ, c'est d'un côté les billes bleues, les billes rouges qui ont été perdues, et d'un autre côté, les billes bleues qui sont restées. Et donc, en fait, ça devient un problème de calcul de tout, connaissant chacune des deux parties. Alors, vous voyez que le recodage a permis de passer d'un problème de transformation avec question sur l'état initial à un problème de combinaison avec question sur le tout, connaissant la valeur de chacune des deux parties. De cette manière, On peut, par exemple, trouver la solution au problème que je mentionnais tout à l'heure, où il y avait 25% de réussite en CE2, parce que le fait de retrouver les coureurs qui ont abandonné, eh bien, on voit qu'on connaît le nombre de coureurs au départ, on connaît le tout qui sont les 108 coureurs, on cherche la partie manquante qui sont les coureurs qui ont abandonné. Alors, en conclusion, bah, je récapitulerai simplement les quatre grands points qu'on a vus ensemble, les trois grands points qu'on a vus ensemble. Donc, en premier lieu, cette idée d'impératif analogique comme un impératif psychologique et une façon aussi de dire les choses, c'est que l'analogie va introduire de manière flexible de la stabilité dans la diversité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette diversité perpétuelle, il y a le fait d'avoir besoin de lui donner du sens et de la rattacher à de l'existant, et puis en même temps tout cela dans une dynamique développementale. Ensuite, le fait que certaines analogies vont forger les interprétations initiales, et c'est le cas des trois formes d'analogie que l'on a balayées ensemble, qui vont permettre donc de comprendre les erreurs et les difficultés des élèves et qui constituent une entrée pour aider à se faire développer les notions. Et puis la question du recodage sémantique pour permettre aux élèves de percevoir de nouvelles analogies qui, elles, fondent les notions sur le plan disciplinaire. Et donc, pour conclure, je pense avoir dressé une certaine image donc de l'analogie comme une nécessité incertaine mais féconde. Je vous remercie.